Radio Jenny, la plus rebelle des radios.
What you call is a diamond fella. All you little boys are a comedy of errors. You fellow, but you fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. What are you gonna do? Little boys get tame like the shoe. You mid summer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capulet, you're monarch, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, getting to your CV. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. I do what you like. You want to do about nothing, what you do is buy it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as a winter's tail. Tight as a Jonica's was bound.
Bonsoir.
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 Il est 19h passé de 4 minutes et 30 secondes.
Et ce soir, on va parler, on va revenir sur l'affaire Marivonne avec l'UMP qui propose des lois anti-squatteurs.
À Calais, nouvelle du bidonville d'État.
Ensuite, on aura notre magnifique chronique numérique.
Nouvelle enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara. C'était l'assassinat, c'était il y a 28 ans. La nouvelle enquête, c'est maintenant.
Ensuite, on parlera des 100 femmes les plus puissantes du monde.
Et puis là, ça sera certainement 20h moins 1 et ça sera l'heure d'une petite météo.
Vas-y.
Allez, et ben, du coup, vous avez certainement entendu parler de cette maison vide squattée à Rennes par des méchants squatteurs qui privent une petite vieille innocente de rentrer chez elle. Bon, on le rappelle, hein, nous ici, parce que c'est pas rappelé souvent dans les médias, vraiment très 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 rarement, cette maison était vide depuis 7 ans, les squatteurs y vivent depuis 1 an et demi et n'ont jamais reçu la moindre visite d'un huissier pour lancer une procédure d'expulsion, alors même que la proprio était au courant depuis le début de l'occupation, puisque les squatteurs lui avaient envoyé un courrier pour l'avertir de l'occupation, ainsi que la préfecture qui l'a informé par deux fois, précise-t-elle, en automne 2013 et mai 2014.
Et aussi, il faut dire qu'elle n'est pas vraiment que complètement propriétaire de cette baraque, en plus.
Ah.
Elle n'est pas la seule propriétaire.
Très bien. Et en plus, du coup, son but, et c'est important de le souligner, parce que du coup, tous les médias sous-entendent un peu qu'elle squatterait le canapé d'une pote à la maison de retraite, comme ça, en attendant de pouvoir récupérer son bien. Non, non, pas du tout. Son but n'est pas de pouvoir rentrer chez elle, mais bien de vendre cette maison à des promoteurs immobiliers. Donc voilà, donc tout ça a fait un foin qui a commencé par le site Braise Info, qui est un site d'extrême droite. C'est eux qui ont un peu lancé le buzz sur Internet. Et ce qui fait que son comité de soutien est quand même composé principalement de militants d'extrême droite. Voilà, donc dans tout ça, en bref, il y a des élus UMP qui ont demandé la remise en question de la loi Dalo, mais ça on vous en parlera plus en détail tout à l'heure, car ils considèrent que cette loi légaliserait le squat. Il y a l'Union Nationale de la Propriété Immobilière, qui s'appelle autrement UNPI, qui déclare que, je cite, son cas n'est pas isolé. Nous avons pas mal de témoignages de personnes qui, au retour de vacances, de missions professionnelles ou d'un séjour à l'hôpital, ne peuvent pas rentrer chez elles à cause des squatteurs. Ensuite, pour... Attention,
c'est dur la vie des propriétaires.
C'est hyper dur. Pour le député Julien Aubert, il faut aller plus loin et créer un délit d'occupation sans droit ni titre. On a aussi la Chambre nationale des propriétaires qui réclame carrément la suppression de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 qui encadre une expulsion. Et c'est, du coup, cet article 61 précise il précise que une expulsion doit être, sauf exception, doit être précédée d'une décision de justice. Du coup, c'est-à-dire qu'il faut passer par le tribunal pour pouvoir expulser quelqu'un. Ben voilà, ce qui se cache derrière cette histoire, c'est quand même une histoire montée de toutes pièces par l'extrême droite locale, que les occupants font l'objet de menaces physiques et verbales de la part de petits fachos du coin. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'est fait squatter sa maison alors qu'il était parti en week-end, et la police lui a dit qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui, que les squatteurs étaient protégés par la loi. Il y a quand même bien plus de situations véritables plutôt que théoriques, comme je viens de le dire plus haut, où un proprio débarque super énervé et pète toutes les vitres de la maison sous le regard souriant des flics qui disent, je cite, « Mais vous savez, je ne peux rien faire, il est chez lui. » Ou alors les flics prennent en aparté le ou la proprio et lui expliquent que sa déposition, que dans sa déposition, pardon, il faudra dire qu'elle est passée la veille dans la maison pour que les gens se fassent expulser immédiatement sans procédure. Ces deux exemples sont du vécu. Il faudra remettre les choses un peu à leur place. Ce ne sont pas les propriétaires, les victimes des méchants squatteurs, mais bien des gens en galère de thunes qui trouvent des solutions dans des maisons, terrains ou appartements laissés à leur bandeau par leurs proprios.
Et donc, il y a ce Julien Aubert qui est un député UMP qui a fait cette proposition de loi qui viserait à sanctionner pénalement les occupations sans droit ni titre. Donc, pour rappel, Julien Aubert, il avait été l'initiateur en 2003 d'un mouvement subtilement intitulé Rassemblement Bleu Lavande. Donc, c'est lui qui avait fait ça. Bon, bref. Son texte a déjà été signé par 40 de ses confrères, propose que les préfets soient dans l'obligation de recourir à la force publique pour expulser les occupants sans droit ni titre d'un bien immobilier dans les 48 heures après la décision du juge, et propose également de frapper les contrevenants d'une sanction d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L'intention de criminaliser les pauvres ne fait aucun doute là-dessus. Et donc il fait suite à la proposition de loi anti-squat de la sénatrice maire UMP de Calais, Natacha Bouchard, qui avait été approuvée par le Sénat en 2014, à gauche comme à droite. Calais, où il y a aussi Sauvons Calais, un groupe d'extrême droite qui joue beaucoup sur le truc du squat, où je trouve j'ai envie de rapprocher un peu aussi les deux affaires, quoi. Si cette proposition de loi vise les squats en premier lieu, elle ouvre également les possibilités de sanctionner par une peine de prison la pratique des occupations. Et donc cette loi viendrait attaquer de plein fouet le droit au logement tel qu'il existe aujourd'hui. Voilà, et pour par rapport à tout ce que tu as dit, je trouve que j'ai envie de redire un peu la loi telle qu'elle est faite. C'est faut distinguer deux choses, c'est le délit pénal de violation de domicile, donc le fameux cas où des personnes débarquent dans la maison pendant que vous partez en week-end, et ce qui n'a rien à voir avec l'affaire Marivonne et qui aurait engendré une intervention directe des forces de l'ordre, et l'occupation d'un logement inhabité. Là en l'occurrence depuis 12 ans et sans droit ni titre comme c'est le cas là au 94 rue de Châtillon et dont le traitement légal se fait via une juridiction civile et sur décision du juge et donc ils vont finir les gens par être expulsés donc non, la loi, il n'y a pas un vide pénal là autour.
C'est ça. Et pour rajouter, la procédure, du coup, dans le cadre d'une occupation sans droit ni titre, du coup, dans le cadre d'une maison qui n'est pas occupée par ses propriétaires, c'est une procédure qui se fait en référé. Du coup, c'est une procédure ultra rapide. Et quand même, s'il y a quelques propriétaires qui nous écoutent et qui sont inquiets, on ne sait jamais. Rassurez-vous, quand même, le tribunal n'accorde très, très, très rarement du délai, si ce n'est jamais de délai aux occupants, aux squatteurs des maisons ou des terrains ou des appartements.
Eh ben, comme il n'y a pas de la rubrique qu'il faut que ça se sache aujourd'hui, je vais parler rapidement de Calais, de donner un petit point de la situation en ce moment. Donc, les gens sont allés s'installer dans ce nouveau bidonville d'État. Les gens dorment peu, ils se relayent toutes les nuits pour éviter les vols. Et les vols se multiplient en effet dans ce bidonville où personne ne peut plus faire face à l'augmentation du nombre de personnes et à la concentration dans le même espace de personnes qui n'ont pas choisi de se côtoyer. Ça, c'est un aspect qui a été relevé par plein d'assos et de militants, etc. Dès l'automne, quand il y avait eu cette proposition de mettre tout le monde au même endroit. Pour rappel, il y avait plein de camps et de squats à des endroits différents. C'était pas pour rien. C'est que tout le monde n'a pas envie forcément d'habiter ensemble. Et du coup, de forcer des gens à habiter ensemble, et ben, c'est pas une chouette chose. Bref. Et alors, des tours de garde s'organisent. La tension continue pour autant à monter. Il y a des groupes de plus faibles et de plus fort. Il s'agit de vols dans les tentes ou les cabanes, parfois des tentes elles-mêmes en l'absence des personnes, mais aussi en leur présence et sous la menace. Donc dimanche, parti d'un vol de portable, il y a une violente bagarre qui a éclaté, grosso modo entre des Afghans et des Soudanais. Ça, c'était à l'intérieur du centre Jules Ferry. Et c'est une partie de deux personnes et c'est devenu une bagarre qui impliquait 200 personnes. Mais en même temps, donc on voit la tension qui s'accumule, comme un petit truc là, 200 personnes se jettent dessus. Et mais en même temps, il y avait plus d'un millier de personnes dans le centre. Du coup, c'est reste quand même minoritaire les gens qui sont allés se battre. Du coup, c'est pas pour les desservir que de dire ça. Parce que justement il y a plein de gens qui ont aussi fait descendre la tension et du coup pourquoi là je relaye ça, c'est que on met en place une situation où on enferme des gens ensemble, après les médias disent facilement ou les politiques disent facilement qu'ils sont violents, qu'ils se tapent dessus, qu'ils se volent et que du coup c'est des personnes malveillantes, mais on enferme tous les sénateurs dans une assemblée, on voit ce que ça donne, et si en plus on les fait vivre là-dedans des longues journées, ils feraient pas mieux qu'un vol de portable et une grosse baston. Donc voilà. Et du coup, le bidonville, il s'est pas organisé en quartier homogène par pays, région, ethnie, langue ou religion. Il y a des jeux de regroupement plus ou moins importants et de voisinage et de liens qui se tissent entre les uns et les autres. Des liens d'ailleurs qui s'étaient tissés dans d'autres squats avant. Donc quand même plein de gens qui discutent ensemble et qui doivent trouver des langues communes. Et c'est souvent l'anglais ou l'italien ou le grec, où c'est des pays où les gens ont pu séjourner et du coup ça leur fabrique une langue commune. Et du coup, voilà, à Calais, il y a toujours eu des squats et des campements homogènes et d'autres assez largement multiethniques. Et donc, ça, c'est pas une règle d'or et il y a ni à imposer un truc dans un sens ni dans l'autre. Et donc là, il y a le bidonville à côté du centre Jules Ferry qui regroupe donc des services qui existaient avant ailleurs, comme l'accueil des femmes, les douches, les repas. Un par jour, une permanence santé. Euh, 100 femmes sont hébergées dans deux bungalows de 200 mètres carrés, soit 4 mètres carrés par personne, sans compter leurs enfants, souvent en bas âge. Du coup, ça fait pas beaucoup. Hein. Voilà. Et pour les douches, les exilés recevaient un jeton qui faisait couler l'eau pendant 4 minutes. Et depuis la dernière visite en début mai de Cazeneuve, la douche est passée à 6 minutes.
Voilà. Les socialistes.
Voilà, et du coup, donc il y a beaucoup de personnes à Calais qui se moquent de Cazeneuve en se disant "Tain, t'es pas capable de faire quelque chose là pour les 2000 personnes qui sont présentes, mais par contre, t'augmentes de 2 minutes la douche, c'est quand même une foutage de gueule." Et voilà, et puis pour finir, certaines personnes qui vivent dans le centre Jules Ferry et le bidonville qui lui font face nomment ce centre le Sangat du Pingre.
Et c'est l'heure de la chronique numérique.
Avec une platine CD qui marche.
Et oui.
Sur deux, alors il y a un petit temps de battement.
Mais on meuble en attendant.
Ils reviennent, ils sont très énervés, ils s'en prennent cette fois à Sony. Ce sont les Anonymous.
Leurs armes, les ordinateurs. Leur but, déstabiliser les gouvernements avec le site Wikileaks, vider vos comptes bancaires, paralyser des centrales nucléaires avec des virus. Les pirates.
Facebook, Twitter. Twitter, LinkedIn, Viadeo. Comment s'en servir? Comment maîtriser ces nouveaux outils de communication?
On les dit capables de détruire n'importe quel système informatique. Pourtant, on murmure aussi que ce sont eux qui les ont construits. On les appelle des hackers.
Bonsoir. Alors aujourd'hui, dans les chroniques numériques, on va commencer avec Bluetooth, qui n'est pas juste parce que j'ai un accent pourri, c'est un pseudo avec deux F à la fin. C'est le cofondateur de Reflet.info, qui est un site d'information principalement sur le numérique. Donc Bluetooth, en fait, en août 2012, il a fait une recherche sur Google, comme vous et moi. Il a accédé à un lien qui contenait des documents qu'il a téléchargés. Ces documents, c'était principalement des comptes rendus de groupes de travail ou des échanges d'experts d'une agence qui traitait de la santé publique, qui est l'ANSES, à propos des nanosubstances. Il a donc écrit un article sur son site Reflet.info. Le problème, c'est que c'est de la documentation sensible et ça aurait pas dû être indexé par Google. C'est un défaut de sécurisation du réseau de l'ANSES. Donc, dès la parution de l'article, l'ANSES a porté plainte en pensant qu'ils avaient été piratés. Il y a eu une enquête qui a été confiée à la DCRI. Bluetooth, il a eu une perquisition, son matériel informatique a été confisqué et il a été placé en garde à vue. Il a eu un procès en avril 2013 où il a été relaxé parce que, on rappelle encore une fois qu'en fait, il a accédé à des documents qui étaient indexés par Google, qui ne demandaient pas de mot de passe, qui étaient en accès libre. Donc, il a été relaxé au TGI. Mais le ministère public a fait appel et il a été condamné en février 2014 à 3000 euros d'amende pour maintien frauduleux dans un système automatisé de données et vol de fichiers informatiques. Donc, il a été en cassation, et son pourvoi en cassation a été rejeté vendredi, parce que la cassation estime qu'il n'y a pas de nouveautés à juger, et accepte le jugement précédent. Donc, on rappelle quand même que Reflet.info, on en avait déjà parlé, ils avaient publié des révélations sur des systèmes de surveillance numérique fournis par des entreprises occidentales à des régimes autoritaires, comme le contrat d'Amesis en Libye. Et du coup, on peut légitimement se poser la question de si ça aurait pas un rapport, parce que on comprend pas bien l'illégalité de ce qu'il a fait, Bluetooth. Il a quand même téléchargé des documents qui étaient accessibles, sans mot de passe, il a rien craqué, il a rien piraté, personne n'a rien de précis à lui reprocher, à part le fait que ces documents, ils auraient pas dû sortir, donc ça c'est un problème qui peut être reproché à la limite aux informaticiens qui ont mis en place le réseau. Mais pas à lui. Voilà, donc on attend de voir. Son avocat a parlé de faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme. On attend de voir ce qui se passe et on viendra au courant. Le 22 mai, le gouvernement a déposé un amendement à son projet de loi sur le dialogue social et sur l'emploi. Et cet amendement, il disait que les agents Pôle emploi pourraient réclamer de différents intermédiaires de nombreuses données, comme les FADET, qui sont donc les factures détaillées, les contrats, les données de connexion, les abonnements de TV, tout ça à demander aux fournisseurs d'accès à Internet ou de téléphone mobile ou autre. Cet amendement, je vous le dis tout de suite, il a été enlevé quelques jours après. Mais voilà, c'est quand même un problème de savoir qu'ils ont voulu faire ça, sans passer par un juge, bien entendu. Donc n'importe quel agent de Pôle emploi aurait pu avoir accès à la date, au lieu et à la durée de la connexion de votre téléphone mobile ou de votre ordinateur, de qui se connecte sur votre connexion Internet, de quelle chaîne TV vous regardez, à quelle heure vous les regardez. Et du coup, toutes les métadonnées, parce que eux, ils se défendent en disant que c'est que des métadonnées. On ne sait pas exactement, on ne sait pas la teneur des conversations que vous avez au téléphone, on ne sait pas la teneur des textos que vous envoyez ou que vous recevez, on sait juste qui, quand et où. Donc eux, ils disent que ce n'est pas dangereux. Le problème, c'est comme d'habitude, les métadonnées, ce qui est dangereux, c'est les croisements. C'est-à-dire que si la personne du Pôle emploi, elle sait que vous étiez censé être à un rendez-vous, que vous aviez appelé un employeur pour prendre un rendez-vous le lundi et que ce lundi-là, vous n'avez appelé personne avec votre téléphone, et ben elle sait que vous avez menti. Si vous étiez censé avoir ce rendez-vous dans une autre région et que ce lundi-là, votre téléphone n'a pas bougé de chez vous, donc c'est que vous n'êtes pas allé au rendez-vous. Si votre téléphone a au contraire bougé pendant 2 semaines, a été à plusieurs kilomètres de chez vous parce que vous étiez parti, parce que vous êtes au chômage et que vous avez quand même le droit de vivre, et ben vous n'aviez pas le droit parce que vous étiez censé déclarer vos congés au Pôle emploi. Voilà, donc cet amendement, heureusement, le gouvernement l'a retiré. Le ministre du Travail dit que c'est parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de concertation, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Mais voilà, on se demande si c'est pas un contre-feu plutôt, hein, pour dire non, regardez, quand on fait des trucs qui craignent vraiment, on les enlève. Mais voilà en tout cas ce qu'ils auraient voulu faire.
Ils reviennent, ils sont très énervés, ils s'en prennent cette fois à Sony.
Et on revient quand même encore une fois sur le feuilleton Pirate Bay parce qu'ils nous font toujours rigoler. Donc Pirate Bay, on le rappelle, c'est un site de téléchargement de torrents, donc ce qui est illégal si vous téléchargez des fichiers qui sont sous copyright. Vous pouvez complètement télécharger des fichiers qui sont en accès libre et faire même ce que vous voulez avec les fichiers en copyright. Mais voilà, le 4 décembre 2014, donc la SCPP, la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes, on en avait parlé, avait obtenu le blocage de Pirate Bay par les fournisseurs d'accès à Internet. Donc le blocage de l'adresse de Pirate Bay qui est thepiratebay.se. Mais le 9 décembre, donc 5 jours plus tard, il y a eu un raid de la police suédoise qui a saisi les serveurs de Pirate Bay. Donc Pirate Bay est de toute façon tombé et ce jugement n'a servi à rien. Ils ont été hors ligne pendant près de 2 mois jusqu'au 31 janvier. Puis ils sont revenus comme d'habitude. Et le 6 février, les fournisseurs d'accès à Internet ont quand même reçu une lettre leur demandant d'empêcher cet accès depuis le jugement du 4 décembre. Donc ils l'ont fait. Donc depuis, un peu après le 6 février, la plupart des fournisseurs d'accès à Internet, donc Free, Bouygues, SFR et Orange, parce que les autres, on leur a rien demandé, donc si vous êtes chez Numéricable ou OVH ou autre, vous avez le droit d'aller sur Pirate Bay. Ils ont donc bloqué ces fournisseurs d'accès à Internet-là. Et le 19 mai, il y a un tribunal de Stockholm qui a décidé de saisir le nom de domaine thepiratebay.se et du coup que en fait ce site ne soit plus accessible mais dans le monde entier parce qu'il aura été saisi directement à la source. C'est pas juste des fournisseurs d'accès qui en bloquent l'accès, c'est juste que ce nom de domaine ne dirigera plus vers ce site Pirate Bay. Comme ça n'a pas été appliqué immédiatement, ils ont eu le temps de changer leur logo et de me donner quelques noms de domaines comme piratebay.mn.gd.la.am et .gs. Donc bonne nouvelle pour tous les internautes français, vous n'avez plus besoin d'utiliser le Tor ou un proxy ou n'importe quoi pour avoir accès à Pirate Bay, puisque de toute façon, vu que le seul et unique nom qui avait été bloqué ne l'est plus, les nouveaux ne le sont pas encore parce que ça prendra encore du temps avant qu'ils les bloquent. Et vous pouvez donc réaccéder à Pirate Bay tranquillement sur thepiratebay.mn. Voilà, amusez-vous bien. Et ce sera tout. Et juste un petit son maintenant sur la neutralité du net, parce qu'on l'a déjà expliqué 1000 fois, mais pour ceux qui n'auraient pas encore compris, une petite explication un peu détaillée de ce que c'est.
Posséder une route n'autorise pas à choisir les voitures qu'il emprunte. Bonjour. Sur Internet, tous les paquets naissent libres et égaux en droit. Les paquets, ce sont les petites valises qui transportent les informations circulant sur le réseau des réseaux. Tel qu'il a été créé, le net n'est qu'un tuyau qui transporte tous ces paquets de façon neutre, quel que soit leur contenu. C'est ce que l'on appelle la neutralité du net. Cela n'a rien de novateur. Après la Seconde Guerre mondiale, en France, le Conseil national de la Résistance proclamait déjà la neutralité de la correspondance et l'appliquait à la poste. Le rôle du facteur est de transmettre la lettre de Jean à Stéphane, peu importe son contenu. Mais Internet grandissant, les entreprises chargées de gérer les tuyaux, les fournisseurs d'accès, ont pris de l'importance. Or, les plus gros opérateurs, comme les Américains Time Warner ou Comcast, produisent aussi des contenus pour remplir ces mêmes tuyaux. Du coup, quand ils voient passer gratuitement sur le net des choses similaires à ce qu'ils vendent dans leurs offres câblées, la tentation est grande de fermer le robinet. En 2008, aux États-Unis, Comcast a été condamné par la FCC, la Commission fédérale des communications. Le géant américain avait tranquillement choisi de modifier les paquets provenant de BitTorrent, un réseau d'échange de fichiers en peer-to-peer. Ces paquets, une fois transformés, faisaient sauter la connexion de l'utilisateur et empêchaient le transfert. En 2013, en France, l'opérateur Free a supprimé par défaut chez ses abonnés toutes les publicités sur YouTube. De quoi faire pression sur le géant Google. Deux exemples où non seulement le facteur ouvre l'enveloppe, mais en plus, il réécrit la lettre selon ses besoins. Dernièrement, la surcharge du réseau est devenue le nouveau chiffon rouge agité par les géants des télécoms. Certains fournisseurs de contenu boucheraient les tuyaux. Selon une étude, Netflix, par exemple, utiliserait 34% de la bande passante aux États-Unis aux heures de pointe. Étude menée par l'entreprise canadienne Sandvine, dont le business est justement de vendre des outils de régulation du réseau. C'est d'ailleurs les services de Sandvine qui bridaient BitTorrent dans les tuyaux de Comcast. Un détail. Mais heureusement, les fournisseurs d'accès ont la solution miracle. Faire payer les services les plus gourmands, comme Netflix. ceux qui pourront signer le chèque deviendront alors prioritaires dans les tuyaux. Comme si on ouvrait une voie VIP sur toutes les autoroutes, uniquement réservée à quelques grosses berlines, pendant que les autres restent coincés dans les bouchons. La bataille en cours est bien celle des contenus et de leur business. L'accord TISA, en négociation depuis 2012 au sein de l'Organisation mondiale du commerce, le confirme. Il doit encadrer le commerce des services entre 50 pays du globe, 70% du marché mondial. Et l'un de ces paragraphes pourrait bien tordre la neutralité du net. Celui qui soumet l'accès aux services et applications à une gestion raisonnable du réseau. Juste ce qu'il faut de flou pour permettre un Internet à deux vitesses. Et pendant que les grosses berlines rouleront sur leur voie privée, tous les autres contenus resteront dans les bouchons. Les posts de blog, les vidéos anodines, les services encore inconnus, tout ce que chaque citoyen pourrait avoir envie de publier ou créer librement. En visant la neutralité du net, les fournisseurs d'accès s'attaquent à la liberté d'expression en ligne et glissent vers un modèle qui a fait ses preuves, la télévision, où quelques-uns décident de ce que la masse doit voir.
Sur l'assassinat de Thomas Sankara. Thomas Sankara a été assassiné le 15 octobre 87, autant dire c'est pas exactement ça l'info du jour. Thomas Sankara, c'était qui? Je vais revenir très très rapidement dessus, hein. Ça a été un dirigeant du Burkina Faso. C'est même avec son arrivée au pouvoir que le pays a commencé à s'appeler le Burkina Faso. Avant ça s'appelait la Haute-Volta. Et surtout, il fait partie des quelques dirigeants africains qui ont été sincèrement, honnêtement, intégrement, je ne sais pas si le mot existe, anticolonialistes, anti-impérialistes. Thomas Sankara a du coup vraiment lutté pour une sorte de réelle indépendance de son pays, au point d'être par exemple pas très poli avec François Mitterrand en 86, qui était passé au Burkina. Et résultat, à la fin de l'année 87, il y a eu un coup d'État, il a été assassiné. Et depuis, c'était celui qui avait été son frère d'armes un peu jusqu'au coup d'État, qui a pris le pouvoir au Burkina et qui est resté jusqu'au 15 octobre dernier, donc qui est resté 27 ans au pouvoir. C'était Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, lui, il n'était pas très anti-impérialiste, il a plutôt été extrêmement ami de la France et un peu un pilier de la France-Afrique dans toute l'Afrique de l'Ouest, quoi. Blaise Compaoré a quand même été viré du pouvoir. C'était pendant les deux journées révolutionnaires des 30 et 31 octobre 2014, donc il y a 6-7 mois. Et voilà. Et donc le pays se trouve un peu dans une nouvelle période. Il faut savoir quand même que Thomas Sankara a laissé dans la mémoire des Burkinabés une forte impression. C'est vraiment resté quelqu'un pour lequel les Burkinabés ont globalement beaucoup d'estime. Par contre, pour ce qui est des circonstances exactes de sa mort, personne n'en sait rien. Et on imagine bien, vu comment se sont passées les choses, que Blaise Compaoré a décidé de cette mort, qu'il l'a ordonnée, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, les choses restent un petit peu floues. Et là, ce qui se passe, c'est qu'une enquête est rouverte. Ce qui s'est passé hier, c'est que des tombes ont été rouvertes, celles de Thomas Sankara et d'autres gens qui sont morts, qui étaient avec lui au moment de sa mort. Et voilà, alors ont été rouvertes par les médecins légistes. Hein. Du coup, on ne sait pas exactement ce que ça a donné, mais voilà ce qu'en dit le journal L'Observateur Palga, qui est un journal burkinabé. Donc, dans un article un peu plus long, hein, mais le petit extrait que voilà. Après donc le travail de bénédictins, des médecins légistes et aussi des experts en balistique, qui devront déterminer les types d'armes qui ont servi à battre Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Il reviendra à la justice militaire de démêler cet écheveau politico-militaire trois décennies après les faits titanesques. Certes, des témoins de cette tragédie sont morts, souvent dans des circonstances troublantes. Mais beaucoup d'autres, eux, sont encore en vie et méritent d'être entendus s'ils ne l'ont pas encore été. tout comme doivent être auditionnés tous ces hommes politiques qui ont été de toutes les missions, missions parlementaires, etc., pour justifier et expliquer la mort de Sankara le renégat. Tout ce beau monde-là, s'il devait accepter de collaborer avec la justice sans rechigner, ferait progresser les enquêtes. Ça, c'est du côté burkinabé. Du côté français, parce que, bien sûr, toute cette histoire, donc voilà, Sankara a été tué, il y a eu un coup d'État, et finalement, c'est Blaise Compaoré qui a pris le pouvoir. Ce qu'on sait, pareil, pas officiellement, mais dont on se doute très fort, c'est dans quelle mesure la France a joué un rôle là-dedans. Et donc l'association Survie, qui est cette association qui lutte contre la France-Afrique et les sortes de trafic d'influence entre la France et l'Afrique, et entre la France et l'Afrique, nous demande du coup demande à la France, au gouvernement français, de contribuer à élucider l'assassinat de Thomas Sankara. Et donc voici ce qu'écrit Survie. Donc le 15 octobre 87, le président Thomas Sankara était assassiné par un commando de militaires du régiment de la sécurité présidentielle, un coup d'État mené par Blaise Compaoré, chassé à son tour du pouvoir le 31 octobre 2014 par une révolte populaire. Aujourd'hui encore, les responsables n'ont pas été inquiétés, alors que le peuple burkinabé, après 27 ans de régime ploutocrate et criminel, ça c'est tout à fait le vocabulaire de cette association Survie, s'est massivement levé les 30 et 31 octobre 2014 dernier, mettant fin au régime de Blaise Compaoré. La France, dont les autorités ont soutenu Blaise Compaoré tout au long de son règne, donc des 27 ans de son règne, et ont facilité sa fuite, et il a été exfiltré par un hélicoptère français, se doit de faire un geste fort en direction du peuple burkinabé. 28 ans après l'assassinat du président Sankara et quelques mois après que Blaise Compaoré ait quitté le pouvoir, le gouvernement du Burkina Faso vient enfin d'ouvrir une enquête officielle. Il est grand temps que la France joue enfin son rôle dans cette recherche de vérité. Pour l'association Survie, qui dénonce depuis plus de 30 ans la France-Afrique, accéder à cette demande permettrait aux députés français non seulement de contribuer à établir la vérité sur l'assassinat du président Sankara et de ses camarades, mais aussi et surtout de rompre enfin le cycle de l'impunité de la France-Afrique. Voilà, c'est tout.
Et alors, j'ai trouvé une petite étude qui a été faite sur les femmes les plus puissantes du monde. Donc, on le sait, nous vivons dans un monde capitaliste, raciste, patriarcal. Et voilà. Et en tout cas, là, il y a le magazine Forbes qui a publié une enquête sur les 100 femmes les plus puissantes du monde. Et ça a été un article qui a été publié hier, 26 mai. Donc, en soulignant que seules 24 femmes dans le monde sont chefs d'État ou de gouvernement, ou qu'elles ne sont que 197 des 1826 milliardaires, donc ce qui représente 11%. Non, mais c'est pas possible. Ils sont trompés sur les 11%. Non ? Ok. Je suis nulle en maths. Et dans le dernier classement de Forbes, des personnalités les plus puissantes du monde, on comptait 9 femmes pour 65 hommes. Donc ce classement des femmes puissantes réalisé depuis 12 ans ne met pas seulement en avant les femmes de pouvoir politique et économique. Ce sont aussi celles qui se distinguent dans les paysages sociaux et culturels. Le pouvoir passe notamment désormais par l'influence sur les réseaux sociaux, ce qui explique par exemple la présence de la chanteuse Taylor Swift, la plus jeune de la liste, à 25 ans. Une fois encore, c'est la chancelière allemande Angela Merkel qui occupe la première place pour la 9e fois en 12 ans, devant Hillary Clinton. Donc forcément, les femmes politiques représentent beaucoup de pouvoir. De même que celles qui tiennent des rênes économiques, comme la patronne de la réserve fédérale américaine Janet Yellen et celle du FMI Christine Lagarde, qui est la 6e. Et les femmes responsables d'entreprises apparaissent de plus en plus influentes au fil des années. Du coup, en 2012, une seule, Sheryl Sandberg, qui est numéro 2 de Facebook, se glissait dans le top 10 à la 10e place. Et aujourd'hui, elles sont trois. Marie Barra, patronne de General Motors, à la 5e place, Sheryl Sandberg à la 8e et à la 9e place, Suzanne Wojcicki, patronne de YouTube, détenue par Google depuis 2014. Donc on voit qu'au fur et à mesure des années, même si on est dans un monde capitaliste de merde, les femmes prennent aussi des postes de responsabilité. Donc à l'image de ces deux dernières, donc patronne de YouTube et numéro 2 de Facebook, les femmes travaillent dans le domaine des nouvelles technologies. Et elles sont particulièrement présentes dans la liste. Elles sont 18 sur 100, autant que les femmes politiques, dont 7 dans les 25 premières places. Et alors, par contre, faisons un petit tour du monde. Donc, dans cette liste de 100 femmes, il y a plus de la moitié des femmes qui sont états-uniennes, 59. 18 viennent de la région Asie-Pacifique, 12 d'Europe, dont une seule française, Christine Lagarde.
On a les vedettes qu'on mérite.
Et oui. Et à noter également la présence de Fabiola Gianotti qui prendra les commandes du CERN le 1er janvier prochain. Le CERN, c'est le truc d'atomie nucléaire à Genève, le centre là. Et sinon, il y a. Et voilà. Et qui est-ce qui arrive à la fin de la liste? Il y a 4 femmes d'Amérique latine, comme du Moyen-Orient, et 3 d'Afrique. Donc on voit quels continents sont représentés en termes voilà, capitalistes, racistes, etc.
Et il est 19h39 et c'est l'heure de finir ce Canu Info par une météo. Alors j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Grosso modo, ça s'améliore. On va commencer par demain. Et demain matin, le ciel sera encore un peu voilé avec des températures restant sous la barre des 10 degrés. Mais l'après-midi fera place à un très beau ciel bleu avec un thermomètre proche des 25 degrés. La nuit sera également moins fraîche puisqu'on tournera autour de 13 degrés. Vendredi, on va conserver notre bonne amélioration de jeudi avec des températures aux alentours de 26 degrés. Mais le ciel se voilera légèrement dans le courant de la journée. Alors, pour le week-end, cette fois-ci, amis travailleuses et travailleurs, la météo est de votre côté. Samedi, les températures seront légèrement en baisse. Paniquez pas, puisqu'on aura au maximum 23 degrés dans la journée, avec un ciel toujours légèrement voilé, mais qui se dégagera dans la soirée. Dimanche, une légère hausse des températures, avec un thermomètre dépassant les 25 degrés et un beau ciel bleu en perspective. La tendance pour la semaine prochaine, c'est que le beau temps a l'air de s'installer durablement avec des températures en hausse et des nuages en voie de disparition.
Très bien, et ben, je vais mettre une chanson pour la fin de ce qu'est Nuit Info. Donc on l'avait déjà passé, mais c'est sur l'air de Stromae, Alors on danse, c'est Alors boycott. C'est donc boycott des investissements et sanctions contre Israël. C'est le groupe donc BDS de Marseille qui a fait ce petit clip sur YouTube et dont on met la chanson sur Canu. Voilà, et ben bonne semaine, à la semaine prochaine.
Et ensuite vous aurez 20 minutes de bande continue après cette musique et à 20h vous retrouverez Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Merci de nous avoir écoutés.
Ciao ciao.
Ciao.
Gaza dit prison, qui dit mur dit évasion, qui dit colon dit méfiance, qui dit exil dit souffrance, qui dit droit dit ONU, et lui dit assis dans la merde, qui dit silence dit caution, dit complice et dit sanction, qui dit tir te dit deuil, car les enfants ne meurent pas seuls, qui dit drone dit les bombes, dit résistance dans le monde, qui dit choc dit réveil, encore sourd de la veille, alors on chante pour boycotter tout Israël, Allah boycott. Et là tu te dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois qu'Israël s'endort, quand y'en a plus, ben y'en a encore. Béatrine ou bien Jaffa, Soda Stream et puis Teva. Ça prend leur vie, ça prend leur terre, et toi tu pries pour que ça s'arrête. C'est leur voix, c'est pas la tienne, alors tu bouges plus les oreilles. Là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. C'est fini, alors on chante. Y'en a encore.